Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité et suivez la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir Jésus, le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigo Genji. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Très chers amis, mesdames et messieurs, vous tous qui êtes à l'écoute, recevez tous nos sincères et chaleureuses salutations. Et soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus. Comme vous l'avez suivi, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Nous bénissons le Très-Haut pour ce privilège qu'il nous accorde encore d'honorer ce rendez-vous que nous avons avec la vérité biblique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra tout simplement libre. Pour vous servir une fois de plus, je suis, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Comme promis, mesdames et messieurs, nous allons continuer à nous intéresser à ce grand chapitre que nous avons ouvert sur la famille. Oui, la famille. Et nous avons décidé de commencer par le mariage et nous intéresser particulièrement à l'homme et la femme, ou le mari et la femme. Le Seigneur le permettant, nous allons toucher tous les aspects de la famille, chacun avec ses devoirs et ses responsabilités. Les enfants, les frères et sœurs, les parents, ainsi de suite. Mais étant donné que l'homme et la femme occupent une place très très importante dans la famille, nous avons décidé d'aller doucement pour pouvoir lire les Saintes Écritures et essayer de voir ce que la Bible dit aux hommes et aux femmes, à l'homme et à la femme. Parce que si entre l'homme et la femme tout va bien, il y a à parier que tout ira mieux pour tout le monde. Mais si entre un homme et sa femme ça ne va pas, ça va également se répercuter sur les enfants et également dans la société. Avant de continuer, nous allons prier. Seigneur Jésus, sois béni une fois de plus pour tes multiples grâces qui surabondent dans nos vies jour après jour. Sois béni pour ta divine protection, ton souffle de vie. Sois béni pour tous tes bienfaits. Sois béni pour ce moment. Sois béni pour tous ceux-là qui sont si nombreux à l'écoute. Bénis, Seigneur Jésus, ces multitudes. Bénis ce moment, bénis ta parole. Merci, parce que tu le feras. Que toute la gloire, les honneurs, les acclamations te reviennent. À toi seul, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mesdames et messieurs, Avant d'entrer directement sur le sujet qui doit encore nous préoccuper, je tiens à signaler que, comme promis, nous allons commencer à nous intéresser à quelques conseils pratiques concernant l'homme et la femme. Mais avant d'entrer dans ces conseils pratiques, je veux répondre à cette préoccupation de cet auditeur, cet fidèle auditeur, Gaston Maman, qui a écrit et qui demande quelle est la position des femmes qui se rasent la tête ou portent des vêtements des hommes dans une église. Oui, c'est la question de ce fidèle auditeur, Gaston Maman. Je suis obligé, même si je ne dois pas entrer dans certains détails, de dire quelque chose. En attendant, mesdames et messieurs, comme toujours, vous êtes invités à avoir un stylo et sur quoi noter. Et surtout, installez-vous confortablement et gardez tout simplement l'écoute. Si vous venez de vous connecter, sachez que vous êtes bel et bien à l'écoute de l'heure de la vérité. Oui, je vais répondre à cette question de cet auditeur concernant particulièrement la position des femmes qui portent les vêtements d'hommes dans une église. Quand toute femme qui se rase la tête et particulièrement les cheveux, c'est une notre enseignement, que si le Seigneur le permet, j'y viendrai vraiment en détail. Mais, brièvement, nous pouvons dire ceci. Déjà, dans Deutéronome, chapitre 22, le verset 5, il est écrit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Voilà une portion des Saintes Écritures. Nous sommes dans Deutéronome 22, le verset 5, où le Seigneur dit qu'il ne permet pas à une femme de porter un habillement d'homme. Il ne permet pas non plus à un homme de porter un habillement de femme. Pour être réaliste, pour ne pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Ici là, ce verset ne dit pas exactement quel est l'habillement des hommes et l'habillement des femmes. Oui, parce qu'il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Ici, la Bible ne précise pas quel est l'habillement des hommes et l'habillement des femmes. Par exemple, ici, là, la Bible ne dit pas que l'habillement des femmes, c'est forcément les jupes et l'habillement des hommes de pantalon. Non. Il ne faut pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle n'a pas dit. Mais, si on comprend la pensée de Dieu, dans cette portion des Saintes Écritures, c'est tout simplement pour dire que Dieu voudrait que dans toutes les sociétés, que l'on puisse distinguer un homme et une femme. Par exemple, ce n'est pas normal qu'une femme, dans son habillement, on ne la distingue pas, que l'on ne sache pas si elle est femme ou homme, et vice-versa. Ce n'est pas normal qu'un homme, dans son habillement, que l'on n'arrive pas à le distinguer en tant qu'homme. Là, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et nous savons aussi que dans toutes les sociétés humaines qui existent sur la terre, on sait quel est l'habillement qui est vraiment adapté aux hommes et quel est l'habillement qui est adapté aux femmes. De telle sorte que lorsqu'on voit cet habillement, on sait déjà que la personne qui est dans cet habillement, c'est un homme, c'est une femme. Donc, si par exemple dans une église, on n'arrive pas à distinguer les hommes des femmes au travers de leurs habillements, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est une abomination aux yeux de Dieu. On doit pouvoir distinguer les hommes et les femmes. C'est ce que nous pouvons comprendre dans la pensée de Dieu. Maintenant, si nous lisons dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Vous pouvez relever et après vérifier tranquillement chez vous, mesdames et messieurs. Voici ce qui est écrit à partir du verset 9 au verset 10 de 1 Timothée chapitre 2. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Nous voyons ici, la Bible demande aux femmes de s'habiller d'une façon décente, avec pudeur et modestie. Donc, les femmes qui s'habillent d'une façon extravagante, qui ne sont pas décentes dans leur habillement, sont en train de pécher contre Dieu. Les femmes qui portent des habits, qui les dessinent, qui laissent les parties intimes des hommes, qui exposent leur poitrine et ainsi de suite, c'est pécher contre la parole de Dieu et contre Dieu. Parce que la Bible est suffisamment claire à ce sujet. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, dont la décence est conseillée par le Seigneur. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, verset 10. Donc, il n'y a pas à discuter là-dessus. Chère jeune fille, chère mesdames qui êtes à l'écoute, le Seigneur vous encourage à vous habiller décemment et avec modestie. Donc, ne mettez plus des habits qui vont vous dessiner. Ne mettez plus des habits qui vont exposer votre corps. Ne mettez plus des habits qui vont amener les gens à vous convoiter. Parce que vous avez exposé même vos parties intimes. En passant, Dieu avait formellement interdit dans sa parole, et il n'a pas changé à ce sujet, que l'homme ne verra pas la nudité d'une femme qui n'est pas sa femme. Donc, lorsque vous livrez publiquement votre nudité, c'est très très grave. Non seulement vous péchez contre Dieu, vous amenez aussi les autres à pécher. Puisque l'œil sera obligé de regarder ce que vous êtes en train d'exposer. Non seulement vous péchez, en même temps vous entraînez les autres à pécher. Donc vous devenez une occasion de chute. Que la personne qui a vraiment des oreilles pour entendre, entende. La Bible va continuer en disant, je lis, je recommence le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. La Bible dit ici que la femme ne doit pas non plus mettre l'accent sur l'aspect extérieur de sa personne. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas prendre soin d'elle, mais Dieu dit que ce n'est pas ça qui est le plus important à ses yeux. Qu'elle se pare de bonnes œuvres. Donc si une femme veut attirer particulièrement l'attention de Dieu et non l'attention des hommes, c'est beaucoup plus par ses bonnes œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui parlaient habillement extravagant pas des cheveux tressés, des perles et toutes sortes de bijoux qu'elle met sur elle, attire l'attention de presque tous les hommes, mais ne se part pas de bonnes œuvres. Les hommes peuvent vous regarder, vous convoiter et même vous dire des choses, mais si Dieu ne vous apprécie pas, ça ne veut rien dire. Vous devez chercher plutôt à être vu d'abord par Dieu et à être apprécié par votre Sauveur, votre Créateur, votre Dieu. En vous préoccupant beaucoup plus des bonnes œuvres, dans votre manière d'être et ce que vous faites réellement. Et l'apôtre Pierre va dire ceci dans sa première lettre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. À partir du premier verset, il est écrit ceci. 1 Pierre, chapitre 3. À partir du premier verset, il est écrit: Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Maintenant, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou d'habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu. Alléluia. La Bible nous dit clairement que la femme, au lieu de se parer de toutes sortes d'habits somptueux et d'or, de perles et tout ce qui est frappant, elle doit plutôt chercher à avoir un cœur pur. Oui, ce cœur qui est vraiment pur aux yeux de Dieu. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Donc, n'investissez pas tellement dans l'extérieur avec des habits somptueux, des tresses. Tout cela, c'est bon. La femme doit s'entretenir. La femme doit prendre soin d'elle. Mais elle ne doit jamais oublier que le plus important, ce n'est pas tout ce qu'elle a sur elle de façon extérieure. C'est ce qu'elle a à l'intérieur. La Bible nous dit que, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou d'habits précieux qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espérait en Dieu. Amen. La Bible nous dit que toutes ces femmes qui étaient de saintes femmes qui espéraient en Dieu ne mettaient pas trop l'accent sur l'extérieur. Elles mettaient beaucoup plus l'accent sur l'intérieur et aux bonnes œuvres. Alléluia. Que la personne qui a des oreilles pour entendre, entende. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous connecter, vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est votre émission de méditation profonde, où la vérité biblique, uniquement est proclamée, sans détour, sans compromis et sans concession. Nous allons continuer à nous intéresser au mariage. Et je tiens toujours à signaler que le grand chapitre, c'est la famille. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. Le constat est clair. Le monde va à la dérive. C'est la perdition totale. Parce que la famille va mal. Et lorsque la famille va mal, ça se manifeste dans la société. Et pourtant, Dieu est le concepteur de la famille. C'est ce que nous avons vu dans Genèse. Et parce qu'il est le concepteur de la famille, il est bien placé pour nous conseiller. Si et seulement si nous pouvons avoir une oreille attentive à ce qu'il dit, à ce qu'il dit. C'est pour cette raison que j'ai décidé de nous entretenir longuement sur ce sujet, la famille, afin de contribuer aussi à améliorer notre société, Parce que je suis convaincu que si la famille va bien, la société ira bien. Et beaucoup de choses ont été déjà dites. Nous ne pouvons plus revenir sur tout cela. Nous allons continuer. Et avant de donner quelques conseils pratiques au couple, je tiens particulièrement à dire que lorsqu'on parle de mariage, en réalité, c'est tellement sérieux, sérieux, vraiment sérieux. Parce que si la famille va mal, c'est aussi parce que beaucoup prennent le mariage à la légère. Beaucoup prennent cela comme de l'aventure. Ce qui est très très dangereux. Très très dangereux. Par exemple, si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 7, tous ces chapitres parlent du mariage. Écoutons ce que le premier verset va dire. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il va dire, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Voilà. Les Corinthiens avaient écrit à l'apôtre Paul. Ils voulaient des enseignements, des éclaircissements sur le mariage. Il commence en disant, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Autrement dit, pour lui, c'est bon pour l'homme de ne même pas du tout se marier. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul savait que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. C'est une entreprise très très sérieuse. Et lorsqu'on s'engage sur ce chemin, il faut s'attendre vraiment à retrousser ses manches pour travailler. Parce que c'est dur. C'est dur, contrairement à ce que beaucoup pensent. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Sinon, l'apôtre Paul ne pouvait pas commencer à répondre à cette question en disant, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Et d'ailleurs, il va dire cela à plusieurs reprises. Par exemple, au verset 7, il va dire, je voudrais que tous les hommes soient comme moi. C'est-à-dire célibataire. Mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Il est dit que s'il devait conseiller, pour lui, il faut que les hommes soient comme lui, c'est-à-dire célibataire. Mais l'apôtre Paul nuançait toujours quand même ses propos. D'ailleurs, au premier verset, lorsqu'il va dire que je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes, le verset 2, il va dire, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il nuance. Donc, il ne faut pas entrer dans les extrêmes. Ici, c'est pour dénoncer tout cela qui font de cela une doctrine en disant que pour servir Dieu, ils ne doivent pas se marier et de faire de ça un dogme de la religion. Là, ça devient des doctrines des démons. Parce que l'apôtre Paul nuançait toujours ses propos. D'ailleurs, le verset 8, il va dire à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il serait bon de rester comme moi. Voilà, le verset 8, il dit que ceux qui ne sont pas encore mariés ou bien les veuves, il leur dit que c'est bon de rester comme cela, sans plus se marier. Mais maintenant, le verset 9, il va dire, mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Je suis juste en train de vouloir montrer que si ce grand apôtre du Seigneur disait à plusieurs reprises dans ses écrits que il n'était pas bon, pour, selon lui, pour l'homme de se marier, c'était juste une façon pour lui démontrer que en se mariant, il faut se préparer en conséquence, savoir qu'il y aura des soucis, il y aura des souffrances, il y aura des problèmes liés au fait qu'on s'est marié. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire clairement à partir du verset 26 de 1 Corinthiens chapitre 7. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à l'homme d'être ainsi. C'est-à-dire hors des liens du mariage. Qu'il est bon à cause des temps difficiles. Il est bon à l'homme d'être ainsi, c'est-à-dire non marié. Maintenant, verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Tu n'as point péché. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais, ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Amen. Voilà, les Saintes Écritures nous disent que si vous vous mariez, ce n'est pas un péché, pas du tout. Mais, sachez que vous aurez des tribulations, c'est-à-dire des souffrances, des épreuves terribles à cause du mariage. Donc, le mariage, c'est une entreprise vraiment sérieuse. Que ceux qui prennent cela à la légère, qui pensent qu'ils peuvent se marier, le lendemain divorcer, et après, non, pas du tout. Retenez que le mariage est sérieux. Et on se marie une fois pour toutes. C'est pour cette raison que vous deviez, si vous n'êtes pas encore marié, prendre tout votre temps. Réfléchis mûrement. Et priez aussi longuement avant de vous engager sur ce sujet. Parce que la famille que vous allez fonder va dépendre du choix que vous avez fait et de cette décision que vous avez prise. Alors, si nous arrêtons même là, à partir de là, nous comprenons tous que si la société va mal, c'est parce que les gens se sont engagés dans le mariage qui est le fondement de la famille sans s'être préparés ou sans être renseignés. Ou bien beaucoup se retrouvant dans le mariage ne savent même pas que il y a les souffrances, il y a les épreuves. Et lorsque ça arrive, beaucoup se sentent vraiment surpris. Parce qu'ils n'étaient pas du tout préparés à ces choses. Et pourtant, la Bible en parle ouvertement. Vous êtes à l'écoute de l'aide de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser maintenant à quelques conseils pratiques au couple. Les trois piliers de la vie des couples. Oui, le couple a au moins trois piliers. Qu'est-ce que j'entends par pilier? J'entends par pilier ces gros poteaux qui vont soutenir le foyer, qui vont soutenir la famille, qui vont soutenir le mariage. Vous savez, ceux qui construisent des immeubles en savent quelque chose. L'immeuble va tenir bon, debout, parce qu'on lui a fait vraiment une bonne fondation, et surtout parce que les poteaux qui soutiennent sont vraiment des poteaux suffisamment costauds. Et il en est de même pour la vie des couples. Construire une vie de couple, c'est un peu comme construire une maison. Pour que celle-ci tienne debout, il faut un bon terrain. Je répète, construire une vie de couple, c'est un peu comme construire une maison. Et pour que celle-ci tienne debout, il faut un bon terrain. Des matériaux de bonne qualité. Et surtout, un bon architecte et un bon maçon. Pour construire son couple, il faut avoir trouvé le bon architecte. Et le meilleur architecte qui existe dans cet univers ne peut être que Dieu. Parce que c'est lui le concepteur du mariage. Donc tournez-vous vers le Seigneur d'abord avant toute chose. Parce qu'il est le concepteur et il est le plus grand architecte. C'est très très important. Ne mettez pas Dieu de côté. Mesdames et messieurs, vous qui n'êtes pas encore mariés et vous qui êtes mariés. Parce que c'est curieux. Parfois, beaucoup à un moment donné ne veulent même pas qu'on les parle de ce que Dieu dit dans sa parole concernant le mariage. Beaucoup veulent agir comme bon les semble en mettant la parole de Dieu de côté. C'est une erreur très 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 grave. Oui, beaucoup décident de faire comme ça les passe dans les têtes. Ce n'est pas de cette façon que vous allez construire votre famille et votre vie de couple. Dieu est le bon architecte, le meilleur et le concepteur du mariage. Ensuite, comme je disais tantôt, qu'il faut un bon terrain. Oui, il est important de choisir ensemble le bon terrain. Et ce terrain, ça peut être celui de nos croyances, de nos valeurs communes. C'est cela qui va nous permettre de construire sur des bases solides. C'est très très important. Parce que c'est deux personnes qui décident un jour de se marier, mais ces deux personnes viennent des horizons différents, avec des valeurs qui ne sont pas forcément communes, avec des croyances qui ne sont pas forcément les mêmes croyances. Ce sont des exemples que je prends en passant. Avec des habitudes qui ne sont pas forcément les mêmes habitudes, avec la façon de concevoir et de voir les choses qui parfois sont vraiment opposées. Et c'est important de s'asseoir et de s'entendre sur beaucoup de choses, sinon ça ne marchera pas. Parce que lorsque vous vivez dans une maison avec quelqu'un, alors que vous ne vous entendez pas sur beaucoup de choses, vous avez vraiment des croyances différentes. Vous avez des valeurs, des principes différents. Il ne faut pas rêver. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pour cette raison que vous qui n'êtes pas encore mariés, vous avez encore au moins cette chance que vous pouvez vous asseoir avec votre futur conjoint ou conjointe et commencer à discuter sérieusement sur ce qu'il y a entre vous comme différence et tomber d'accord sur beaucoup de choses avant de vous engager. Ne croyez pas que c'est dans le mariage que les choses vont changer. Non, pas du tout. Vous allez vous entendre avant de vous marier. Parce que rien ne prouve qu'après le mariage, les croyances vont changer. Les principes et les valeurs vont changer. Si chacun campe sur ses positions, rien ne changera. Et c'est l'enfer que vous allez vivre. C'est pour cette raison que vous deviez vraiment chercher ce bon terrain d'entente, celui de nos croyances et de nos valeurs communes. C'est très très important, parce qu'il n'y a que cela pour permettre aux gens de construire sur des bases vraiment solides. Puis, comme nous venons de le lire dans 1 Corinthiens chapitre 7, le mariage n'étant pas un jeu d'enfant, il faut maintenant retrousser ses manches. Il faut retrousser ses manches, travailler et travailler encore pour élever les murs avec le ciment de l'amour et du pardon. Oui, mesdames et messieurs, lorsque on a un chantier, si on veut que les choses marchent, on sera obligé de retrousser les manches et travailler très dur. Si on va avoir une bonne maison, une belle maison, solide, il en est de même pour le mariage. Lorsqu'on va dans le mariage, ce n'est pas seulement pour manger, boire et dormir, c'est aussi pour travailler. C'est pour cette raison qu'il faut savoir cela et se préparer d'avance. Parce que l'expérience a montré que beaucoup, dès qu'ils rencontrent le moindre problème, ils veulent le divorcer. Parce qu'ils n'ont jamais appris que le mariage, c'est aussi travailler. Travailler. Pour élever les murs avec le ciment. Particulièrement le ciment de l'amour et du pardon. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'aide de la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Avant de continuer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur la lune de miel. Oui, on entend souvent parler. La lune de miel. Ça fait rêver. La manière dont les gens parlent de la lune de miel, en réalité, ça ne peut que faire rêver. Nous en rêvons tous. Parce qu'elle est vraiment chargée d'une bonne dose d'émotion et d'attente. Et le plus souvent, ça peut être vraiment un temps de grand bonheur. Mais, Il arrive aussi parfois que la découverte de l'autre, de ses besoins, de son intimité, de ses traits de caractère cachés, apporte de la déception et nous plonge alors dans la perplexité. C'est ainsi qu'on commence à se dire, il ou elle n'est donc pas tout à fait ce que j'avais rêvé. Oui, c'est ce qui arrive le plus souvent. Après la lune de miel, petit à petit, on commence à découvrir réellement qui est la personne qui est en face, qui est l'homme qui est en face, qui est la femme qui est en face. Et on commence à se dire, oh, cette personne, ce n'est pas vraiment la personne que je pensais. Oui, il ou elle n'est pas tout à fait ce que j'avais rêvé. Mesdames et messieurs, sachez que tout ce qui vit est appelé à grandir. Et le couple vit. Et le couple vit. Et il est aussi appelé à grandir. Et vous deviez le savoir. Si cette pensée est présente dans votre esprit, elle vous aidera à dépasser les moments de crise qui peuvent survenir. Je tiens aussi à partager avec vous, mesdames et messieurs, ceci. Sachez que de la même manière que nous avons les saisons, oui, de la même manière que nous avons les saisons, il faut aussi savoir que le mariage ou l'amour, pourquoi pas, a aussi ses saisons. Beaucoup ne le savent pas. Parce que les relations sont comme les fleurs d'un jardin. Pour qu'elles s'épanouissent et fleurissent, il faut en prendre soin, en tenant compte des saisons et aussi parfois des aléas du temps qui fera. Parce que parfois, personne ne peut déterminer avec exactitude le temps qu'il fera. Et lorsque quelqu'un est un jardinier, il sera obligé de faire face. S'il s'attendait à ce qu'il pleuve et qu'il ne pleuve pas, c'est à lui de savoir comment faire pour gérer la situation. S'il s'attendait à ce qu'il fasse soleil et qu'il ne fasse pas soleil, c'est lui, ce jardinier, qui est conscient de son travail, qui saura ce qu'il faut faire. Il en est de même, mesdames et messieurs, en ce qui concerne le mariage ou la vie de couple. Comme je disais tantôt, il y a aussi les saisons. Dans la vie de couple, par exemple, il y a cette saison ou bien cette période qui commence quand on tombe amoureux. Ceux qui se sont mariés en savent quelque chose. Et cette période qui commence quand on tombe amoureux, à ce moment, on a l'impression de voler sur un nuage et qu'on sera toujours heureux. On a l'impression que notre amour sera éternel et toujours aussi fort. C'est vraiment un moment où tout semble parfait et fonctionne sans difficulté. Et notre partenaire nous semble idéal. Oui, les mariés en savent quelque chose. Mais après, cette période va passer. Comme les saisons et les temps passent aussi, ça va passer, cette période aussi, cette saison. Il y aura maintenant une autre saison. Oui, cette période où on comprend que notre partenaire n'est pas aussi idéal que nous l'avions imaginé et que nous devons travailler très dur pour maintenir une relation saine. Oui, à cette période, les frustrations et les déceptions apparaissent. Il est alors plus difficile de donner et de recevoir de l'amour. Nous découvrons que nous ne sommes pas toujours heureux et aimants. Notre image de l'amour a changé. Et à ce moment, les couples qui ne sont pas prêts à travailler à ce que leurs relations tiennent, abandonnent. Les autres font des efforts pour poursuivre leurs relations en redoublant d'amour, tout simplement. Vous voyez, c'est une saison. C'est une autre saison dans la vie des couples. Après, cette saison va aussi passer. Une autre saison va apparaître. Une autre saison, c'est le moment de récolter les fruits de notre labeur. Rappelez-vous, je viens de dire qu'il y a certains qui abandonnent à cause des problèmes. Mais il y a aussi certains qui décident de travailler. Très dur pour maintenir une relation saine en redoublant d'amour. Et puisqu'il y a toujours une récompense lorsqu'on retrousse ses manches pour travailler, parce que l'homme ne travaille jamais en vain, il y a toujours une récompense. Lorsqu'on travaille pour maintenir une relation saine, lorsqu'on fait les efforts, à un moment donné, on doit commencer à récolter les fruits de notre labeur. C'est une période vraiment riche et gratifiante. Notre amour en ce moment a plus de maturité parce qu'on a quand même traversé des étapes et nous savons mieux accepter et comprendre les imperfections et les manquements de notre partenaire, comme les nôtres aussi. Oui, parce qu'à un moment donné, on commence à vraiment être conscient que ce n'est pas seulement l'autre qui est en face qui a les imperfections et les manquements, que nous aussi, nous en avons beaucoup. Et c'est déjà une très bonne chose pour quelqu'un de savoir qu'il a des manquements et des faiblesses. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent jamais admettre qu'ils ont des manquements et des faiblesses. Avec cette attitude, les choses n'iront jamais dans une vie de couple. Oui, c'est aussi le moment de l'action de grâce et du partage. Pourquoi pas du repos ? Et de l'appréciation de tout ce que nous avons pu faire. Et parce que lorsqu'on travaille, on peut soi-même contempler le fruit de ce qu'on a fait, le résultat de ce qu'on a fait. Et c'est une très bonne chose. Et après aussi, cette saison va passer. Et une autre saison va apparaître. Cette saison, c'est le temps du repos. De la réflexion. Dans nos relations de couple, c'est le moment de guérir des problèmes qui n'ont pas été résolus. C'est aussi un moment de croissance solitaire. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on grandisse personnellement dans une vie de couple. Il faut faire des progrès de façon personnelle. Parce que c'est plus facile de demander à une autre personne de changer et de grandir. Mais c'est encore mieux de se dire, il faut que je change, il faut que je grandisse. C'est très très important. Mesdames et messieurs, j'ai juste résumé pour nous faire tous comprendre que de la même manière comme nous avons des saisons autour de nous en ce qui concerne le temps, dans une vie de couple, il y a aussi des saisons. Et il faut savoir passer victorieusement chacune de ces étapes. Et il faut savoir que le changement au sein des mariages est inévitable et qu'il faut s'adapter à chaque étape. C'est vraiment très très important. Il faut savoir s'adapter parce que c'est inévitable, le changement. bien sûr, qu'en plus de tous ces changements liés aux saisons cycliques, j'ai dit cycliques parce que ce sont des saisons qui risquent de revenir. Il existe aussi beaucoup de choses qui viendront pour perturber notre relation conjugale. Même si votre vie de couple, jusqu'à présent, tout va pour le mieux, gloire à Dieu. Mais sachez qu'il y aura certainement des choses qui viendront perturber votre vie conjugale. Des choses que vous n'avez jamais imaginées, que vous n'avez même pas du tout provoquées. Mais ça viendra, rassurez-vous, si ce n'est pas encore venu. Mesdames et messieurs, vous êtes à l'écoute de l'air de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train d'aborder un grand chapitre sur la famille, le socle de base de la société. Et nous sommes ici en train de donner quelques conseils pratiques au couple, au marié. Parce que si le couple va bien, si entre le père et la mère ça va bien, sans doute que tout ira bien pour les enfants et pour la société. Maintenant, nous allons nous intéresser à quelques attitudes pour prévenir des conflits et des disputes dans le couple. Oui, quelques attitudes pour prévenir des conflits et des disputes dans le couple. Parce que lorsque il y a déjà les conflits et les disputes, franchement, ce n'est pas bon. Les choses peuvent prendre vraiment des tournures que personne ne peut plus maîtriser quoi que ce soit, ni arrêter quoi que ce soit. Déjà, il faut écouter, c'est-à-dire avoir une oreille plus attentive pour écouter ce que dit votre conjoint. C'est très très important. Lorsque votre conjoint parle, écoutez. Écoutez attentivement ce qu'il est en train de dire. Malheureusement, il arrive parfois que pendant que quelqu'un est en train de s'exprimer dans le couple, que ça peut être l'homme ou la femme, c'est comme si il était en train de parler dans le désert. La personne qui est en face n'a pas du temps pour l'écouter. Ce n'est pas du tout bien. C'est du mépris. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement ce que dit votre conjoint. C'est très très important. En écoutant, vous êtes en train de lui montrer que vous êtes intéressé par ce qu'il est en train de dire. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez accepter tout ce qu'il va dire. Pas du tout, mais au moins que vous accordez de l'importance à ce qu'il dit. Parce que dans beaucoup de couples, parfois, l'un des conjoints doit poursuivre l'autre pour pouvoir l'amener à écouter ce qu'il va dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parfois, c'est en route que l'un des conjoints va poursuivre l'autre pour lui dire ce qu'il a à lui dire. Ce n'est pas normal. Sachez écouter avec attention et ne répondez que lorsque votre conjoint a fini de parler. Et en le faisant, c'est suivre le conseil biblique suivant. Nous sommes dans Proverbe chapitre 18, le verset 13. Proverbe 18, le verset 13. Vous pouvez noter. Il est écrit ceci. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. Vous voyez ce que la Bible dit? Donc ne répondez pas avant d'avoir écouté ce que la personne qui est en face est en train de dire. Écoutez d'abord. La Bible dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion. Proverbe 18, le verset 13. Et l'apôtre Jacques, dans son premier chapitre, le verset 19, va dire ceci. Jacques 1, le verset 19. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Amen. Jacques chapitre 1, verset 19. Un autre conseil pratique, encourager. Oui, encourager. Il faut savoir encourager son partenaire, son conjoint. Il faut savoir relever ses qualités et ses points positifs. C'est très, très important. Parce que la plupart des temps, beaucoup ne voient que les défauts de leur conjoint. C'est terrible. Lorsque vous avez la grâce d'avoir un conjoint qui a au moins 20 qualités, peut-être 2 défauts, et que vous ne vous focalisez que sur les 2 défauts, c'est terrible. Avec cela, vous ne pouvez pas avoir une relation saine. Sachez reconnaître au moins ce qui est positif. Parfois, en se focalisant sur ce qui est positif, en se focalisant sur les qualités de ces personnes, vous allez même minimiser ses défauts. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parfois, lorsqu'il s'agit de voir les qualités de l'homme ou de la femme, beaucoup sont aveugles. Mais lorsqu'il s'agit de voir les défauts, ils ont des loupes géantes pour détecter les moindres défauts et crier. Avec cela, vous ne bâtirez jamais un bon couple. Il faut aussi avoir des moments d'intimité, c'est-à-dire prendre le temps de passer des moments agréables, de détente ensemble, c'est très très important. Parce que nous sommes dans un monde où les problèmes nous assiègent, les défis qu'on doit relever, parfois, on est tellement absorbé par toutes sortes de choses qu'on oublie même qu'on devrait prendre souvent du temps avec sa femme ou avec son mari, un temps d'intimité en oubliant toutes les autres choses. Par exemple, si une femme dans une maison est tellement préoccupée par ce qu'elle fait à la maison, au point d'oublier même son mari, ce n'est pas normal. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui se préoccupent beaucoup plus de leur maison que même du mari qui est le chef de la maison. C'est dangereux. De la même manière, l'homme peut tellement se préoccuper en tant que chef de famille, peut-être des besoins de la famille, c'est normal. La Bible en l'encourage et le conseille vivement. Mais ce n'est pas ça toute votre vie. En dehors du fait que vous allez pouvoir aux besoins de la famille, mettez souvent un petit temps de côté, un temps d'intimité avec votre femme. Parce qu'il y a les hommes qui disent souvent à les femmes, je t'ai déjà donné tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu me veux encore? De l'argent, je t'en ai donné. Les habits, tu en as. Les chaussures, tu en as. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Non, non. Ça ne suffit pas. Les moments d'intimité sont très, très importants. Mesdames et messieurs, compte tenu du temps, nous sommes obligés de faire une petite pause. J'ai dit une petite pause parce que prochainement, nous allons continuer. À nous intéresser à quelques conseils pratiques qui pourront à coup sûr nous aider. Nous qui sommes mariés, et ceux-là qui sont en train de se préparer à entrer dans une vie de couple. D'ici là, portez-vous bien, sentez-vous libre, si vous avez des préoccupations de quelque nature que ce soit, de me rencontrer, nous allons partager, discuter et prier ensemble. Parce que je reçois sans protocole. Oui, mesdames et messieurs, particulièrement vous, qui êtes en train de vivre des moments difficiles dans votre vie de couple, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il fasse quelque chose en permettant que l'harmonie revienne dans les plus brefs délais possibles. Et vous qui êtes en train de vous préparer à entrer, que le Seigneur vous accorde sa grâce et vous enseigne davantage, afin que vous puissiez savoir vraiment dans quoi vous êtes en train de mettre vos pieds. Mesdames et messieurs, pour vous servir, je suis, je reste, je demeure votre humble serviteur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre ville. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse notre nation. Et que toute la gloire lui revienne, maintenant et pour toujours. Et à bientôt. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00 237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit NJENDJI rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs.